Je vous propose donc de continuer à considérer l'Épître aux Éphésiens, la suite du chapitre 2, j'avais déjà commenté les dix premiers versets. Et donc, Éphésiens chapitre 2, on va lire les versets 11 à 22. Avant de le lire, je rappelle un petit peu ce qui était contenu dans les passages précédents. Dans les 10 premiers versets de ce chapitre, Paul a dépeint l'état de l'humanité en Adam, c'est-à-dire de l'humanité rebelle à Dieu. Et cet état n'est rien d'autre que la mort spirituelle. Il a exposé ensuite l'unique moyen de salut pour cette humanité morte. Elle peut être rendue à la vie, donc littéralement ressuscitée, par la grâce de Dieu moyennant la foi, et uniquement par ce moyen. Et il a montré que cette résurrection a pour but la création d'une humanité nouvelle, obéissante, zélée pour les bonnes œuvres que Dieu lui propose et qui le glorifie. Dans les versets, on va peut-être plutôt lire le texte, donc Éphésiens 2, à partir du verset 11. Je lis dans la traduction du Semeur. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, ou sans Christ, hein, c'est le même mot. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, les uns et les autres avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et, unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alors donc ces versets 11 et 12, c'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Alors, sans Messie, c'est le même mot, hein, c'est Christos dans le texte grec, qui veut dire celui qui a reçu l'onction, et qui signifie effectivement le Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étranger aux alliances de la promesse, aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de circoncision et d'incirconcision qui revient souvent dans les écrits de Paul? La circoncision était un rite que les Israélites étaient tenus de respecter vis-à-vis des nouveau-nés mâles, un signe extérieur, si on peut dire, de l'appartenance au peuple de Dieu. Dieu lui-même a demandé à Abraham de circoncire tous les hommes de sa maison, y compris les nouveau-nés, et y compris même ses serviteurs étrangers, tous les hommes de sa maison. On trouve l'institution de ce rite en Genèse 17. C'était le signe de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, alliance par laquelle Dieu adoptait en quelque sorte cette famille et ses descendants comme un peuple qui lui appartenait en propre parmi toutes les nations. À l'époque de Jésus et de Paul, ce rite avait pris une importance excessive dans la compréhension de leur identité par les Israélites. Ils en étaient très fiers et avaient un certain mépris pour les peuples païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, et ils les qualifiaient du terme quelque peu méprisant d'incirconcis. En fait, la circoncision n'était que le signe extérieur préfigurant ce que Paul appelle la circoncision du cœur. La circoncision du cœur du petit garçon. Je me suis perdu dans mes notes. Voilà, je disais, la circoncision n'était que le signe extérieur préfigurant la circoncision du cœur du petit garçon lorsqu'il deviendrait capable de comprendre sa situation de pécheur devant Dieu et de décider dans son cœur de suivre le Seigneur. Comme le dit Paul, il n'était qu'un rite pratiqué par la main des hommes, alors que la circoncision du cœur est opérée par Christ lui-même. Il n'y a que lui qui peut transformer un être humain pécheur en un membre du peuple de Dieu. Remarquons au passage que la circoncision physique ne concernait par définition que les garçons, alors que la circoncision du cœur concerne tous les êtres humains, quel que soit leur sexe. Alors à l'époque de Paul, le fait de ne pas être circoncis équivalait à un statut d'étranger au peuple de Dieu. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, aliéné de la citoyenneté israélienne et étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et même, Paul dit le mot, athée dans le monde. En effet, c'est bien au peuple d'Israël que Dieu s'est spécifiquement révélé. C'est à lui qu'il a donné sa loi. Et parmi les privilèges dont a bénéficié Israël, il y a le plus grand de tous, la naissance du Messie au sein de ce peuple. C'est pourquoi Paul dit à ses lecteurs païens qu'ils étaient athées. Ça, c'est fort, et même paradoxal, parce que les païens avaient une multitude de dieux et de temples de ces dieux. Mais c'est bien la réalité du statut des païens. Ils sont coupés du seul Dieu véritable, et en ce sens, ce sont des athées. Et de ce fait, ils sont étrangers aux alliances de la promesse faite à Israël. Et cette promesse, eh bien, c'était précisément celle d'un Messie, ou Christ, l'unique moyen de salut pour tout homme, qu'il soit juif ou païen. Et au verset 13, Paul écrit, « Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. » Les païens, de par leur ignorance du vrai Dieu, de l'univers, étaient spirituellement loin de lui. Contrairement aux Israélites, le peuple choisi, dépositaire de la loi et des promesses de Dieu. Par exemple, en Romains 9, verset 4, Paul écrit au sujet de ses frères israélites, « C'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine. » Vous savez, ce qu'on appelle la Shekinah dans l'Ancien Testament, la nuée, qui remplissait le tabernacle et puis le temple, et qui symbolisait la présence de Dieu. les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. À eux les patriarches. Et c'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Enfin, c'est ce qu'écrivait Paul dans l'Épître aux Romains. Une des plus fortes affirmations de la divinité de Jésus-Christ que vous pouvez citer au témoin de Jéhovah, par exemple, si un jour il sonne à votre porte. Hein ? C'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Alors comment ces peuplades païennes ont-elles été rendues proches du vrai Dieu ? C'est par le sacrifice de Jésus-Christ et leur acceptation de l'Évangile lorsque celui-ci les a atteints. Par leur nouvelle naissance, ils sont désormais unis à Jésus-Christ, tout comme les Juifs convertis. Au verset 14, Paul écrit « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, les païens, et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, donc Juifs et non-Juifs, mais les réconcilier avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Ces cinq versets sont très denses, comme souvent les écrits de Paul. Ils demandent quelques explications. Nous lui devons, donc à Christ, notre paix. Cette paix, c'est celle dont bénéficient tous les hommes pécheurs réconciliés avec leur Créateur par l'œuvre de Jésus-Christ. On l'a vu, cette réconciliation est le fruit de la grâce de Dieu moyennant la foi. Dieu est légitimement en colère contre l'homme pécheur, car il ne peut tolérer le mal. Mais cette colère s'est abattue sur son Saint-Fils à la croix et elle est désormais complètement apaisée. Cette paix avec Dieu se double de la paix entre Juifs et païens, qui se détestaient plus ou moins cordialement, car Jésus-Christ en a fait un seul peuple uni à lui. La loi de Moïse était en effet un obstacle entre les pécheurs et Dieu, et aussi entre les Juifs et les païens. D'abord entre l'homme pécheur et Dieu. Toutes les lois cérémonielles de l'Ancien Testament était destiné à apaiser la colère de Dieu contre le péché, mais aucun sacrifice ne pouvait obtenir un pardon complet et définitif. Le sacrifice de Christ a rendu ces lois et ordonnances obsolètes, comme l'explique en détail l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est dans ce sens que Jésus a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il l'a accompli dans sa personne, pour la question du pardon des péchés. Pour autant, toutes les dispositions morales de la loi restent valables et sont le reflet de la volonté de Dieu. Par exemple, l'interdiction de l'adultère, du vol, du mensonge, etc. Ce sont les dispositions cérémonielles de la loi qui ont été abolies par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais ces lois cérémonielles mettaient aussi un mur infranchissable entre les Juifs et les païens. Ce mur était réel, matérialisé par un véritable mur de pierre entourant le temple, délimitant le parvis des Juifs. Et il y avait plus loin le parvis des païens. Ils ne pouvaient qu'apercevoir de loin le lieu saint. Et tout non-juif qui franchissait ce mur s'exposait à la peine de mort. Des inscriptions gravées dans la pierre, rappeler de loin en loin cette interdiction et surtout la sanction auquel le contrevenant s'exposait. Jésus-Christ, par une véritable œuvre de création, comme on l'a vu au début de ce chapitre, a créé un peuple nouveau, unique, de païens et de juifs, tous rachetés par son sang. C'est ce que dit Paul au verset 15. Donc toute prétention à distinguer un peuple particulier au sein de ce nouveau peuple unique de Dieu est tout simplement une erreur. On assiste de nos jours parmi les chrétiens à un engouement pour les traditions juives. On nous dit qu'on ne peut pas comprendre vraiment la personne de Christ si on ne s'imprègne pas des traditions juives. À la lumière de ce passage, reconnaissez que c'est aberrant. Dans un mode plus ancien mais plus élaboré, l'interprétation dite, un grand mot compliqué, dispensationaliste, bon, du plan de Dieu pour l'humanité, tombe dans la même erreur. Les tenants du dispensationalisme professent qu'il y a deux peuples de Dieu, le peuple juif et le peuple chrétien, avec pour chacun un régime particulier, des promesses particulières, un avenir, une eschatologie, comme on dit, pour faire savant, particulière. C'est également une aberration, au vu de cet enseignement de l'apôtre Paul. Vous avez peut-être remarqué au verset 17 la formulation trinitaire de l'accès des hommes au Père. Je la relis. Grâce à Jésus-Christ, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même esprit. Notre accès auprès du Père est le fruit de l'action des trois personnes de la Trinité. Le Père accueille ses enfants grâce à l'œuvre de Christ à la croix et par l'action du Saint-Esprit en eux. Alors au verset 19, Paul écrit, « Voilà pourquoi, vous, les païens, vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Ben, on chante ça, hein, le gemme 218. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, plus des résidents temporaires. Nous avons mieux qu'une carte de séjour. Nous avons une carte d'identité définitive de citoyens du royaume de Dieu. Au verset 20, Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et, unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. C'est le Seigneur Jésus le premier qui a utilisé cette image d'une construction. En Matthieu 16, verset 18, on nous rapporte les paroles de Jésus. Il dit à Pierre, qui venait de le reconnaître comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Alors, vous savez que ce texte a donné lieu à l'interprétation catholique romaine du statut de l'apôtre Pierre comme le fondement de l'Église et le premier pape. En fait, le texte grec dit « Tu es Pierre », ça c'est le prénom de Pierre, en grec, hein, Petros, tu es Pierre. Bon. Et sur cette pierre, mais là c'est Petra, qui n'est pas un prénom mais désigne simplement une pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il y a bien sûr là un jeu de mots, comme on en trouve souvent dans la Bible. Cette parole de Jésus me semble avoir un double sens. D'une part, la confession de Pierre que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, est la base de la foi chrétienne, donc de l'Église. D'autre part, que Jésus va confier spécialement à Pierre de prendre soin du petit troupeau de ses disciples après son départ de cette terre, comme cela est rapporté par l'apôtre Jean au chapitre 21 de son évangile. Vous vous rappelez que Jésus lui a dit « Paix mes brebis, paix mes agneaux, etc. » Mais Jésus n'a pas dit que cette mission confiée spécifiquement à Pierre serait continuée par d'éventuels successeurs, ce que l'Église catholique romaine appelle la succession apostolique. Alors Pierre lui-même utilisera cette image d'une sainte construction dans sa première épître au chapitre 2. En 1 Pierre 2, verset 4, nous lisons « Approchez-vous de lui, du Seigneur, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. » Au verset 5, « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Et il continue un peu plus loin au verset 9, « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Et au verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Au verset 20, Paul a écrit « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » Alors le texte grec dit plus littéralement « Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, dont la pierre d'angle est Jésus-Christ. » L'Église est construite sur le fondement des apôtres et prophètes. La traduction du semeur donne à comprendre que les fondements de notre foi sont les textes rédigés par les apôtres de Christ, qui sont également prophètes. La grammaire grecque peut soutenir légitimement une telle traduction. On peut aussi comprendre que ce fondement, ce sont les apôtres, par définition du Nouveau Testament, et les prophètes du peuple de Dieu de tous les temps, Ancien et Nouveau Testament. Les deux interprétations sont valables parce que les apôtres Paul, Pierre et d'autres ont donné des paroles prophétiques dans leurs enseignements. Par exemple, la prophétie de Paul d'une restauration future du peuple juif qui se tournera dans l'avenir vers Jésus en Romains 9 à 11. Mais également, les prophètes de l'Ancien Testament ont prévu la venue du Messie, avec beaucoup de détails frappants concernant sa personne et son œuvre. Quoi qu'il en soit, ce texte affirme avec force que l'enseignement des apôtres constitue la base de notre foi. Tant la rédaction des évangiles que les lettres apostoliques du Nouveau Testament. Cela a deux conséquences fondamentales. Ces textes sont les seuls normatifs de la loi chrétienne, de la foi chrétienne. Tout ajout ne vient pas de Dieu. Cela remet en cause sévèrement tous les ajouts que la chrétienté s'est permise de formuler au-delà de l'enseignement des apôtres de Christ, qui ne sont que 12, plus Paul, Pierre, Jacques et quelques autres. Mais tous du premier siècle, leur enseignement est revêtu de l'autorité de Christ. Il n'y a plus d'apôtres de nos jours, contrairement à ce que prétendent certaines églises. Il est vrai que le Nouveau Testament utilise le mot apôtre, qui signifie simplement envoyé, littéralement envoyé, pour d'autres personnes, comme par exemple des délégués des églises, des missionnaires, etc. Mais là, Paul parle des apôtres au sens restreint, de ceux qui ont été missionnés spécialement par Jésus pour rédiger le Nouveau Testament, la base de notre foi. Et la pierre d'angle, celle qui assure la solidité et l'orientation de la construction, c'est Jésus-Christ lui-même, dont les apôtres nous ont fidèlement transmis l'enseignement. Et vous avez noté que Pierre dit qu'il s'agit d'une pierre vivante sur laquelle sont édifiées des pierres vivantes, elles aussi. L'édifice tout entier vit de la vie de Christ, s'oriente selon les instructions de Christ. Séparé de lui, tout s'écroule. Et donc, c'est une demeure où Dieu habite, un temple spirituel qui a remplacé le temple de pierre édifié par les Juifs autrefois, détruit et reconstruit à plusieurs reprises, et remplacé définitivement par un temple de pierre vivante où Dieu habite par l'Esprit. Comme l'a dit Jésus à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qu'il adore ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. Alors, je propose qu'on regarde quelques-uns des points saillants de ce chapitre 2 en lançant le diaporama. Elisabeth, est-ce que tu peux me mettre le PowerPoint sur... voilà. Alors, premier point. Les païens, pardon, oui, excuse-moi, oui. Donc la majorité du peuple juif, qui bénéficiait d'une proximité exceptionnelle du Dieu de l'univers, a raté le salut qui lui était offert en rejetant le seul moyen de ce salut, la croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les juifs se sont appuyés sur leurs privilèges, dont la circoncision, signe de leur appartenance à Dieu, et ont refusé la circoncision du cœur, que seul Christ, leur Messie, peut opérer. Les païens, quant à eux, adonnés à leurs cultes idolâtres, étaient en réalité sans Dieu, des athées, sans Messie, c'est-à-dire sans Christ, et sans espérance. De ces deux peuples, Dieu en a fait un seul, par pure grâce et sur la base de la foi dans le sacrifice de son Fils. C'est une véritable œuvre de création spirituelle de la part de Dieu, de résurrection spirituelle, avec pour conséquence physique la future résurrection de nos corps lors du retour de Christ. La loi de Moïse, pourtant sainte et bonne, comme le dit Paul, a été mise de côté comme moyen de salut par l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'a pas aboli la loi, mais l'a accompli dans sa personne. Les dispositions cérémonielles de la loi de Moïse sont, elles, abolies, car elles mettaient un obstacle entre juifs et païens. Il est donc aberrant de les remettre en œuvre. Les chrétiens, quelle que soit leur origine ethnique, forment la véritable demeure du Dieu vivant sur cette terre. Ils sont le nouveau temple de Dieu, toujours en cours d'édification, fait de pierres vivantes, orientées par la pierre d'angle qui est le Christ. Ce nouveau temple subsistera jusque dans l'éternité. L'enseignement des apôtres et prophètes, mis par écrit, constitue le contenu de la foi des chrétiens de tous les temps. Aucun ajout ni retranchement n'est légitime. Pour autant, les écrits apostoliques comprennent des dispositions dictées par les contraintes culturelles de leur époque, le premier siècle, qui se prêtent à de légitimes adaptations pratiques pour l'Église du XXIe siècle. J'ai cité juste un exemple, l'exemple du voile des sœurs en 1 Corinthiens 11, qui correspondait manifestement à une coutume de l'époque. Je crois que c'est la dernière. C'est la dernière. Voilà, donc voyez un petit peu quelle est l'extraordinaire révélation que l'apôtre Paul a reçue du plan de Dieu pour l'humanité, que ce soit les juifs ou les chrétiens. Et il l'a reçu, il le dit bien, par révélation, une communication directe du Seigneur. De ces deux peuples, à peu près ennemis, un seul peuple, une seule création, un peuple nouveau avec un seul Père. Et il a aboli ainsi toutes les divisions, tous les particularismes. Il y a un seul peuple de Dieu. Et par grâce, nous faisons partie de ce peuple. Nous avons notre carte de séjour de ce peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole.